Suivre la trace de Nicolas de Staël en Provence, c'est se mettre à la poursuite d'un homme qui s'enfuit, écrit l'historien de l'art Pierre Vatte. Chaque fois que l'on le croit ici, il est ailleurs. Chaque fois qu'il s'arrête quelque part, il songe à repartir. Toute halte n'est qu'une étape, comme il s'agissait de fuir par le mouvement, l'immobilité qui tue. Bonjour Marie Dubouchet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la petite fille de Nicolas de Staël, fille d'Anne de Staël et du poète André Dubouchet. Vous êtes surtout ici en tant que coordinatrice du comité Nicolas de Staël. On vous entendait il y a quelques années aussi sur France Culture. Vous avez produit de nombreux documentaires sur la peinture et sur l'histoire de l'art. Vous venez nous parler ce matin de cette exposition qui se tient à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Caumont, jusqu'au 23 septembre. Exposition qui se concentre sur l'antépénultième année de la vie de Nicolas de Staël et l'avant-dernière, plus précisément, de juillet 1953 à juin 1954. Il se donnera la mort en 1955. Quelles circonstances l'ont alors amené à s'installer en Provence?
C'est sur l'invitation de son ami René Char. Qu'il part s'installer en Provence. Il avait découvert la Provence déjà l'année précédente. Il était allé en août 52 voir le Lavandou, passer des vacances auprès du Lavandou. Et c'est là qu'il a reçu les premières très fortes impressions de lumière. René Char a parlé à ce moment-là de la lumière cassée bleue. Que Nicolas de Staël va reprendre cette métaphore qui correspond particulièrement bien à sa peinture et à tout ce qu'il va développer dans cette année 53-54.
Comment on la décrit, cette lumière cassée bleue ?
C'est cette lumière, selon les mots du peintre, qui finalement dépasse la couleur elle-même et la transforme, la permet de la renverser. Donc le sable peut devenir violet, le ciel jaune, la mer verte. C'est cette lumière qui permet au peintre de réinventer son langage.
Alors Nicolas de Staël s'installe à Lagne, dans une ancienne magnanerie. À quoi ça ressemble ? À quoi ressemble sa maison ? Vous y êtes déjà allé ? Vous l'avez vu ? Est-ce qu'il y avait un atelier ?
Non, je ne l'ai jamais vu. Personne à part donc ma mère qui était enfant. Cette maison existe encore en tant que telle, mais a été transformée avec les années. Il y avait effectivement un atelier à l'étage en terre battue, d'après ce que j'ai entendu dire, où il fallait monter par une échelle. On lit dans certaines lettres qu'il y avait plusieurs ateliers dans il aurait pu s'installer à différents endroits, mais il a vraiment déposé ses toiles et commencé son travail au premier étage de la maison.
Alors, est-ce qu'il y était seul ? Vous dites que c'est à l'invitation de René Char qu'il y va, mais il recherchait une certaine solitude à l'époque.
Oui, alors il a finalement été seul, mais quand il est arrivé en début juillet 53, il est arrivé avec sa famille pour passer des vacances finalement, tout simplement. Et c'est là qu'il a rencontré Jeanne Polch, qui était une amie de René Char, et la fille d'une amie de René Char également. Et là, ils allaient au Grand Canfou, à 1 kilomètre de Lagne, passer des soirées dans cette grande ferme qui s'appelait le Domaine des Grands Canfous.
Donc beaucoup de sources d'inspiration que vous avez égrenées depuis le début de cette conversation, que ce soit la lumière, la beauté de la Provence. Cette lumière, qu'est-ce qu'elle a de particulier pour l'enfant du Nord ?
Une certaine violence, une lumière qui boit les couleurs, une minéralité dans ce pays, et qui est marqué par la force du mistral, par toutes les couleurs sont quelque part à la fois reçues d'une façon crue et violente, et en même temps elles sont bues par la violence du soleil. Donc c'est pour un peintre aussi un lieu où réinventer une palette.
Il n'y a qu'une chose intéressante ici, écrit-il, je saisis ou pas la lumière d'ici, et c'est tout. Comment s'en imprègne-t-il ? Il fait de longues balades, il regarde par la fenêtre.
Alors, c'est Nicolas de Staël peint essentiellement à l'atelier, mais effectivement, il y a eu des marches dont il parle, mais toutes les impressions reçues à l'extérieur sont développées et retravaillées à l'intérieur en atelier. Il y a assez peu de tableaux peints à l'extérieur. On peut trouver quelques petits formats de paysages comme ça. On peut les distinguer car ils sont peints avec beaucoup plus de liberté, de spontanéité que d'autres qui sont davantage construits. Mais ce qui intéresse le peintre avant tout, c'est à la fois de saisir l'immédiateté de la perception, mais en la travaillant, en l'approfondissant dans l'atelier. Et c'est ça qui en fait une peinture très forte. C'est cette construction, cet aspect formel recherché avec un langage très précis qui saisit l'immédiat et le présent d'une lumière fugitive. C'est vraiment ce qui caractérise cette peinture.
Et il y a dans cette exposition beaucoup d'éléments de paysage, des routes, des fleurs, des arbres, des natures mortes, des nus aussi, des portraits. Et vous évoquiez cette Jeanne Polge qui devient son modèle. Comment se passe la rencontre ? Qu'est-ce qui se passe avec Jeanne Polge ?
Jeanne Polge est donc la fille d'une amie de René Char. Et elle se trouve là, dans ce grand domaine des Camps Fous. Et il y a une passion, une rencontre incroyable qui se passe entre cette femme et Nicolas de Staël. Il décide, à peine arrivé à Lagnes en juillet 53, trois semaines après, de faire un voyage en Sicile. Il passe le permis en 15 jours et remonte à Paris pour montrer un peu tous les allers-retours de Nicolas de Staël qui effectivement est dans un mouvement perpétuel. Il remonte à Paris, veut passer son permis, s'achète une Citroën et met dans cette voiture ses enfants et deux amis, Jeanne Polge et Siska Grillé. Siska Grillé qui parlait l'italien, qui était également une amie de René Char, et Jeanne Polge qu'il a rencontrée donc là en juillet 53. Ils n'ont pas encore de relation amoureuse, mais il embarque tout ce monde-là, sa femme Françoise qui est enceinte, pour faire un voyage en Italie, aller chercher la lumière encore plus pure et peut-être, c'est ça, pousser ses recherches sur la lumière encore plus loin jusqu'en Sicile.
Donc la Provence reste l'épicentre de ces déplacements. Et Jeanne Polge est mariée, elle a des enfants.
Jeanne Polge est mariée, elle a deux enfants et cette relation qui va commencer plutôt après ce voyage en Italie à la rentrée, en septembre-octobre 53, va être une relation assez compliqué puisque Jeanne Polge ne veut pas quitter ni son mari ni ses enfants et Nicolas de Staël avec ce caractère très puissant comme ça et étant très contrarié du fait que cette femme ne veuille pas tout laisser pour vivre avec lui. Donc ça va créer des tensions, une tension supplémentaire dans son travail, ce qui va également lui permettre de se dépasser lui-même en se créant comme ça des embûches sur son chemin.
Et extrait de correspondances qui ont été publiées il y a 4 ans quand il écrit à René Char et il écrit à Jeanne Polge, tu me mets toi dans une espèce de délire. J'ai fait en une nuit détresse, une après-midi et au retour de Marseille l'un des plus beaux tableaux de ma vie. Il est dans le sud de la France, installé là, il est dans une sorte d'urgence, il y a quelque chose de dur chez Nicolas de Staël à ce moment-là.
Oui, il est donc en train de vivre cette passion. Et cette passion lui permet de peindre certains des plus beaux tableaux de sa vie. Et donc, il y a cette urgence liée à cette exposition qu'il prépare aux États-Unis, car il faut le dire, il est arrivé en Provence pour préparer cette exposition qui va créer sa renommée internationale. Ce qui est amusant, c'est de voir que c'est en Provence, dans ce lieu si particulier, si précis en France, qu'il va créer toutes les toiles qui vont faire sa renommée internationale. Dans cette exposition, donc à la galerie Paul Rosenberg, à New York, qui aura lieu en février 54.
254 tableaux, 300 dessins, comme s'il y avait encore une fois une urgence. Comment qualifier la peinture de Nicolas de Staël, qui n'est pas de la peinture abstraite? Il s'en défendait, ce détachement de la peinture abstraite, comment est-il considéré par ses pairs, ce qu'il appelait le gang de l'abstraction?
Oui, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais senti dans cette école de l'abstraction, dans aucune école. Il est resté toujours assez solitaire avec ses recherches. Et effectivement, son rapport au réel et au sensible lui a toujours permis, malgré peut-être des moyens formels abstrait dans sa peinture avant les années 52, de rester en contact avec le monde réel et donc de passer dans ces années, à partir de 52, de repasser à la figuration en gardant ces éléments de peinture abstraite, mais en se rapprochant de la structure d'un paysage réel. Donc c'est vrai que c'est un peintre et il est assez unique dans ce domaine-là qui a trouvé la synthèse entre l'abstraction et la figuration.
Nicolas de Staël qui cherche la couleur, les arbres sont rouges, la mer est couleur sable, évidemment on les reconnaît et toute la force des tableaux de Nicolas de Staël est ici aussi. Qu'est-ce que tout ça dit aussi de l'importance de la perception du peintre supérieure encore au réel? Nicolas de Staël écrit « On ne peint jamais ce qu'on voit ou croit voir, on peint à 1000 vibrations le coup reçu, à recevoir semblable différent, un geste, un poids, tout cela à combustion lente ».
Oui, il y a beaucoup de paradoxes dans cette phrase que vous venez de citer. C'est vrai qu'elle illustre remarquablement bien son travail et ce dont on vient de parler sur cette proximité entre la figuration, le monde sensible qui est toujours là, qui est la première question de Nicolas de Staël, essayer de mettre sur la toile toute cette sensibilité, la richesse de sa perception, son enthousiasme face au paysage, face à un nu, à un bouquet de fleurs. Et c'est cette vibration qui lui permet d'inventer vraiment un nouveau langage pictural. Car cette sensibilité, c'est la sienne. Il ne trouve aucun moyen formel qu'il va répéter, un langage qu'il répète de toile en toile. À chaque fois, il y a une réinvention. Et quand on voit sur cette seule année de peinture, de création qu'on montre là à Aix-en-Provence, on voit à quel point le renouvellement est présent, qu'à chaque toile, même si cette toile est un véritable chef d'œuvre, il ne s'installe pas dans quelque chose qu'il aura pu trouver pour le répéter. Il y a à chaque fois un renouvellement, un dépassement, une confrontation des couleurs de la palette qui peut atteindre des violences inouïes et magnifiques.
Et un peintre qui se montre très dur envers lui-même, qui confie par exemple à Jeanne-Paul, je sujette Picasso, je me fais l'effet à côté de lui d'un rustre mal dégrossi, mais la force qu'il y a dans mon truc me rend pâteux, lourd et gauche.
Oui, il y a effectivement cet allège. Quand on regarde les tableaux de près, c'est assez impressionnant. On voit, il y a quelque chose effectivement de pâteux, une épaisseur, cette épaisseur qu'il va peu à peu diluer, faire disparaître. Plus on va aller vers les années 54-55, la période qui va succéder à Antibes. Mais là, dans cette exposition, il y a effectivement beaucoup de tableaux avec de l'épaisseur, de la peinture qui coule. Donc il y a une certaine maladresse qui, malgré tout, crée des chefs-d'œuvre et un équilibre.
Mon très cher René, tu m'as bien piégé en me conviant dans le midi. Me voici à présent en Sicile dans une drôle de posture. Comment te remercier, vieux frère? Tu as remis le feu dans ma vie. J'ai l'impression d'être devenu à mon tour l'un de ces joueurs galopant sur l'herbe rouge à la poursuite d'une balle imaginaire. Si tu voyais toutes les toiles que j'ai déjà dans la tête, toutes ces couleurs vives qui éclatent dans le paysage comme une fête dont Jeanne serait la reine. Puis, quand elle se dérobe à mes baisers, le ciel d'Agrigente devient soudainement noir, comme ces corbeaux envahissant les tableaux de Van Gogh. Cette chaleur épaisse m'écrase, et je ne discerne plus aucun horizon. Mais surtout, pas d'inquiétude, vieux frère. J'ai toujours été ce fantôme courant derrière la réalité, cherchant un modèle à ces images obsédantes. Rien de neuf donc sous le soleil, à part ces temples grecs et le corps de Jeanne qui les fait trembler. Je t'embrasse de tout cœur, Nicolas.
Lettre de Nicolas de Staël à son ami René Char, extrait de l'atelier fiction de France Culture en 2014. Vous n'imaginez pas votre grand-père s'exprimer comme ça?
Non, alors moi je ne l'ai pas connu, hein, donc je n'ai pas du tout sa voix en tête, mais c'est vrai que je ne trouve pas que cette lecture réponde à notre imaginaire quand on lit ces lettres qui sont plus directes, beaucoup moins... qui ne sont absolument pas... Il n'y a aucune préciosité dans ces lettres. Il y a quelque chose, comme dans sa peinture, de très immédiat, un langage imagé, trouvé comme un coup de poing.
Il y a quand même une force poétique qui est en lui à cette période-ci de sa vie et qu'on se prend en pleine figure à lire les extraits de ses correspondances pendant son exil provençal, exil entre guillemets, et qui dans l'exposition sont inscrites sur les murs entre les toiles exposées. Comment vous avez choisi ces extraits-là et qui disent beaucoup « Je décolle souvent et voyage toujours pour voir si le lieu du leurre ne se confond pas avec celui de ma main, le leurre, le piège, le leurre. Il faut pourtant y arriver, que ce soit sans hésitation, là et pas ailleurs que cela se passe. C'est si dur d'accepter l'abruti qui se trouve en soi et comment faire sans lui ?»
Oui, ces phrases sont incroyables. C'est un peintre qui a trouvé les mots justes pour exprimer ce qu'il cherchait. Cette phrase résume très très bien pourquoi Nicolas de Staël est sans cesse en train de se déplacer, d'être en Provence dans cette maison de Ménerbe où il peint, mais de prendre ses toiles encore mouillées et dégoulinantes de peinture pour les emmener à Paris auprès de son ami Jean Boret pour le confronter ses peintures à l'avis de Jean Boret qui a toujours critiqué son travail. Et donc Nicolas de Staël est toujours en train de voir finalement si la peinture parle par elle-même, s'il a trouvé à travers le langage de la peinture un équivalent à la nature, finalement. Un équivalent pictural avec un autre langage. Donc c'est une peinture qui est à la fois liée à un ici, l'ici où le peintre s'installe pour regarder ce qu'il a devant les yeux, et en même temps, cet ici doit tenir là-bas. Donc c'est comme ça qu'il ne s'agit pas d'une illusion. Le lieu du leurre, c'est le lieu de l'illusion pictural, finalement, de copier la nature et de rester dans une image sans chair. Nicolas de Staël parvient à donner de la chair à sa peinture.
Et de l'humain, même les arbres ont quelque chose d'humain. On dirait des dos de personnes.
Absolument, oui. Le paysage est habité en entier par son regard, sa sensibilité. Et donc, s'il n'y a pas de personnage dans l'espace, c'est l'œil et la main du peintre qui habitent pleinement ce paysage.
Est-ce que ce séjour en Provence est une manière pour lui de ne pas s'éparpiller à Paris aussi, de s'éloigner des mondanités, de pourquoi cet exil en Provence, qui était un lieu privilégié des peintres, et Cézanne l'y avait précédé évidemment?
Alors, il avait cette exposition chez Paul Rosenberg à préparer, donc beaucoup de toiles à peindre, parce qu'il, à la fois, il peignait pour les États-Unis, pour Paul Rosenberg, mais il avait toujours son marchand de tableaux, Jacques Dubourg, à Paris, qui attendait des tableaux. Donc, il y a eu une production extrêmement intense. Donc, le besoin de l'exil, c'est le besoin de se concentrer, de travailler pour produire le plus de tableaux possible et nourrir ces deux galeries.
Et il livrera ses galeristes en temps et en heure, et accompagné pour Paul Rosenberg d'une lettre où il lui dit qu'il y a de quoi là faire la plus belle exposition qu'il n'a jamais faite. Comment a été accueillie l'exposition aux États-Unis et comment l'a été en France?
Alors, en France, il y a eu une exposition à la galerie Jacques Dubourg, qui a été toujours très bien accueillie, mais c'était des expositions, finalement, il y en a eu beaucoup, plusieurs en tout cas, en France. Aux États-Unis, c'était donc la deuxième, ou peut-être la troisième, il y en avait une en 51 ans. Petite, et elle a été extrêmement bien accueillie. Beaucoup de collectionneurs demandaient des tableaux de Nicolas de Staël. Il y avait ses peintures de fleurs qui ont eu un succès incroyable, et son marchand Rosenberg lui demandait de peindre encore des fleurs, ce à quoi Nicolas de Staël n'a jamais voulu répondre, car c'était lui qui décidait s'il voulait peindre encore sur tel ou tel sujet.
Pourquoi Nicolas de Staël quittera-t-il Lagne pour Antibes à l'automne 54?
Alors, je pense simplement pour suivre Jeanne Polge, dont il était éperdument amoureux et qui s'était installée à Grasse, près d'Antibes, pour suivre son mari, elle-même suivre son mari pharmacien.
Et Nicolas de Staël se suicide en 1955, et dans un petit film très touchant qui est projeté dans cette exposition, sa fille dit qu'elle en a voulu à son père dans un premier temps de quitter sa vie si prématurément, mais que finalement l'artiste a fait ce qu'il avait à faire et qu'elle comprend ça.
Oui, car c'est quelqu'un qui est allé vraiment jusqu'au bout de sa peinture, de son développement. Ce qu'on perçoit vraiment très bien en voyant cette exposition, dans ce renouvellement permanent, cette puissance de création, le nombre incroyable de tableaux peints en simplement 10 ans, 1200 toiles en 10 ans. Et donc, c'est vrai que peut-être on peut imaginer et comprendre le point d'arrêt.
71 peintures et 26 dessins donc exposés en ce moment à Aix-en-Provence à l'hôtel de Caumont, donc des peintures peintes de juillet 53 à juin 54. C'est vrai que c'est magnifique et c'est donc jusqu'au 23 septembre exposition. Nicolas de Staël, merci beaucoup Marie Dubouchet d'être venue ce matin dans les studios de France Culture.
Merci.
Merci.